Frères et sœurs, c'est dans la lumière de la transfiguration de Jésus que je voudrais faire cette méditation ce dimanche. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'évangile que nous avons proclamé dimanche dernier, qui est vraiment le phare. Ce temps de carême, c'est un temps bien sûr où on fait des efforts, mais c'est pour contempler déjà ce Christ qui vit au milieu de nous, dans sa lumière, pour nous éclairer, pour nous guider et aussi pour accomplir cette promesse un jour nous serons ressuscités avec lui. C'est tout le but de notre vie chrétienne et c'est une bonne nouvelle. Alors je me permets en ce sens-là de méditer aujourd'hui un peu davantage sur la bonne et sainte colère de Jésus. C'est une vraie colère aujourd'hui que saint Jean nous rappelle. Alors certes, habituellement, autant les petits qui sont ici, autant les plus grands, nous savons que nos colères à nous, elles ne sont pas forcément si saintes que ça. Ça, c'est évident. Et souvent, nos colères à nous s'identifient souvent à de petits ou de grands vilains défauts à combattre. Bon, ça, il n'y a pas besoin de faire un grand discours pour se rappeler cela pendant ce temps de carême. Mais dans la lumière de cette sainte colère, oui, du coup, je me suis intéressé un peu à repérer dans l'histoire des hommes plusieurs colères salutaires, je peux dire bonnes colères, qui ont changé en bien la face du monde. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, nous connaissons tous la superbe grande colère de Moïse, brisant les tables de la loi. On connaît tous aussi la colère de Clovis, c'est une autre colère, mais enfin, Clovis cassant le vase de Soissons. Le fameux « J'accuse » d'Émile Zola, allez voir, ou peu importe, il n'est pas saint, mais l'abbé Pierre, en hiver 54, sa colère. Frères et sœurs, autant de cris, il faut l'avouer quand même, différents, face à l'inacceptable. Face à des gens endormis, qui permettent en fait de voir quand même, en y réfléchissant, la colère aussi sous un meilleur jour. Par ailleurs, je suis allé voir dans les évangiles, c'est intéressant, il n'y a pas qu'une seule colère de Jésus, même si la colère d'aujourd'hui c'est la plus manifeste. J'en ai trouvé au moins 5 colères explicites. Juste pour vous le rappeler, c'est intéressant pour aller voir dans saint Marc et la raison des colères, c'est intéressant. Jésus se met en colère dans saint Marc chapitre 5 contre l'endurcissement des cœurs. Dans Matthieu chapitre 23, contre l'hypocrisie que Jésus n'a cessé de combattre toute sa vie. Dans Marc aussi chapitre 11, c'est contre la stérilité spirituelle. Ou encore contre la désobéissance formelle à la parole de Jésus. Et encore une autre colère, souvent que Jésus exprima face au mépris des tout-petits. C'est intéressant de voir, voyez, ces thèmes où Jésus pique une colère pour nous rappeler que c'est important, qu'il y a quelque chose d'important à ne pas faire. Donc prenez le temps, pourquoi pas, de vous y imprégner, de relire un petit peu ces passages dans les évangiles. Donc maintenant, je vais juste faire un zoom rapide sur cette colère de Jésus au temple selon saint Jean. Et je vous propose 4 pistes, 4 interprétations. Voilà, pour voir un petit peu en quoi la colère de Jésus est justifiée, qu'est-ce que c'est qu'une bonne colère, et essayer d'en tirer quelques bons fruits pour notre conversion. Alors tout d'abord, justement, Jésus nous révèle ici une bonne colère. Bien sûr, la plus sainte des colères, c'est que Jésus qui peut la poser, évidemment. Mais n'empêche, ceux qui aiment bien les références des docteurs de l'Église, entre autres saint Thomas d'Aquin, bien sûr, nous savons que la colère est un péché, mais saint Thomas ailleurs dit que c'est une passion noble, parce qu'elle est proche de l'intelligence. Voyez-vous, la bonne colère éclate toujours, la bonne colère éclate toujours face à un désordre, face à quelque chose qui ne tourne pas rond, plus ou moins grave, par rapport à un bien réel. Et Jésus, dans ce contexte, voyez-vous, il veut rétablir l'ordre dans le temple. Le temple était désordonné par plein de choses. Et alors, il utilise l'énergie de sa colère. C'est une passion bonne. Et si vous avez bien entendu, elle est comme animée par une passion amoureuse pour son Père du ciel. Il le fait par amour pour son Père. L'amour de ma maison est mon tourment. Vous voyez, Jésus aime son Père. On le sait. Et il ne supporte pas que le temple de son Père soit réduit à une maison de trafic et de commerce. Vous voyez, sa sainte colère, vous voyez, c'est une sainte colère. Or, il y a trois petites choses qu'on peut retenir parce que tout d'abord, elle est provoquée par quelque chose de bon, une bonne cause. Il voit un désordre et il veut remettre l'ordre. C'est pour un bien. Ensuite, il le choisit librement. C'est pas comme nous, hein. C'est pas comme ça par pulsion. Il le choisit et il maîtrise à un moment précis pour faire comprendre que ce qui se passe ici n'est pas bien. Et puis en plus, troisième chose, Jésus arrive à porter un bon fruit dans cette colère. Il a chassé tout cela en dehors du temple pour établir le vrai visage du Père, la vraie prière dans le temple. Alors cette sainte colère, bien sûr, frères et sœurs, peut déjà nous éclairer un petit peu, mais elle est un peu casse-pipe, je ne sais pas comment dire ça, parce que nous pourrions éventuellement se dire, pour certains d'entre vous qui sont plus colériques que d'autres, je pourrais utiliser cette interprétation, voyez, de façon pas très juste, du genre. Un frère qui dit à un frère, pas forcément chez nous, dans notre communauté, ou un conjoint vis-à-vis de son conjoint, « Je me mets en colère, je fais comme Jésus, c'est pour toi, c'est pour ton bien. » L'autre peut dire, non, tu n'es pas Jésus, hein. Vous voyez, attention de ne pas se croire tout de suite dans des saintes colères. Effectivement, à la différence de Jésus, nous avons des colères souvent liées à des frustrations, c'est comme ça, des rigidités, des égoïsmes, c'est pas évident de toujours les maîtriser, c'est tout un travail qu'il faut faire, bien sûr, avec la grâce et avec l'amour des frères. Donc attention, ne pas trop utiliser la colère, voyez, nos colères à nous, pour s'imposer aux autres. Et pourtant, frères et sœurs, dans cette interprétation, il y a quelque chose de très 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 beau, de très passionnant, c'est le cœur de Jésus justement qui dit, c'est l'amour de ta maison qui fait mon tourment. Vous voyez que c'est comme pour nous rappeler aussi, est-ce que nous, frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à hausser le ton, je dis ça entre guillemets, ça se fait à la manière de Jésus, c'est vite dit, mais enfin il y a une grâce à demander, frères et sœurs, soit pour établir une situation injuste, je vois une situation injuste dans ma famille, ou des paroles qui sont dites qui ne sont pas bonnes en public ou en famille, est-ce que j'ai cette grâce, cette force de savoir hausser le ton comme Jésus en disant « stop, on arrête ». Pas facile, hein ? Ou de défendre Jésus, l'Évangile, voire l'Église, alors qu'elle est critiquée forcément par certains. Alors, je me rappelle toujours cette petite jeune fille, je pense que je l'avais déjà racontée, de 10 ans, qui, revenant à la maison, se retrouve avec ses parents autour d'un bon repas, et ses parents, comme chaque dimanche, critiquent le voisin, disent du mal sur le voisin. Ah, il a fait ci, il a fait ça, il mérite ci, il mérite ça. Et la petite fille qui dit, papa, maman, dire du mal sur son voisin, c'est pas bien. On vient de sortir de la messe. Sainte colère. Même un petit enfant de 10 ans. Vous comprenez, c'est bon, hein? Deuxième interprétation, réflexion. Ici, Jésus met en valeur aussi le péché de la simonie. Alors, beaucoup savent pas ce que c'est la simonie. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est tout ce qui touche le commerce, justement, autour des choses sacrées, des lieux sacrés. Rassurez-vous, les frères, c'est pas une question d'abord de de bougies là qu'on allume devant la Sainte Vierge ou des ventes de souvenirs. C'est pas ça d'abord que Jésus critique, mais c'est cette subtile tentation qui guette notre cœur toujours, c'est de vouloir croire que nous pouvons acheter les faveurs de Dieu. Je paye quelque chose pour que Dieu me réponde à ma demande. Ouh là là. Voyez, c'est bon pendant ce temps carême, voir comment dans nos prières à la messe, je suis plutôt dans le donnant-donnant, dans la négociation, c'est très humain, vous savez. Ou au contraire, est-ce que j'apprends à dire à Jésus aussi, avant tout, avant la demande, merci Seigneur, merci d'être là, merci de nous donner déjà tout ce qu'il nous faut pour vivre. Amen Seigneur, pour la gratuité de tes dons. Ça permet de ne pas trop entrer dans le piège des changeurs et des négociants du temple. Troisième piste que je vous laisse rapidement, c'est cette distinction entre le sacré et le profane. Vous voyez, juste voir comment nous respectons concrètement ou pas, il y a toujours des choses à faire, les lieux, les horaires, les jours sacrés, voulu par Jésus et par Dieu. Comment j'entre dans une église? Moi, ça m'arrive de passer devant le Saint-Sacrement et en oubliant que Jésus était là. Ça arrive à tout le monde. Mais Jésus nous rappelle qu'il y a des lieux sacrés, des liturgies sacrées et des jours sacrés comme le dimanche. Franchement, frères et sœurs, dans notre vie moderne, où tout nous porte à un relativisme ou à des confusions, la confusion des deux, c'est vraiment pas évident, facile, mais nous pouvons toujours, avec la grâce de Dieu, en témoigner en enfant de Dieu, heureux d'être fils de Dieu. Je termine par une dernière interprétation sur laquelle nous aurions pu faire toute une homélie, c'est la piste la plus symbolique, je peux comment dire ça, c'est celle où Jésus se présente à nous, dans ce passage, comme celui qui veut faire le ménage dans nos cœurs. Pas très drôle les ménages, hein, les ménages communautaires. Pourtant, il faut les faire. Hein, si on ne fait pas de ménage, ben, je sais pas, on ne peut pas vivre dans la crasse. Et ici, frères et sœurs, le nouveau temple, vous avez bien entendu, c'est le corps du Christ. C'est Jésus lui-même. Mais c'est aussi notre corps. Nous sommes tous devenus, par notre baptême, le corps du Christ. Où Jésus, où Dieu habite. Alors c'est tout un programme de toute une vie, frères et sœurs, de faire le ménage dans notre cœur. C'est vrai. Mais en cette marche vers Pâques, en nous appuyant sur l'ardeur de Jésus, après ce passage d'aujourd'hui, n'ayons pas peur parce que Jésus, quand il fait le ménage, il le fait parfaitement. Profitons-en en toute liberté en disant à Jésus, oui, viens Seigneur, montre-moi les choses qui vont pas trop, la poussière qui s'installe dans mon cœur, dans ma vie. Et en reprenant les idées que je viens de développer, pourquoi pas, Seigneur, peut-être tous mes manques de colère salutaire, où j'ai pas le courage d'affirmer avec force pour défendre le bien et refuser le mal. Tous nos manques peut-être de respect plus ou moins volontaire des choses sacrées à voir. Et toutes les fois où nous prions, peut-être pas forcément dans cette gratuité, dans cette louange adressée à Dieu le Père, nous avons de quoi déposer à travers cette messe toutes ces choses-là, sachant que Jésus veut notre bien et il voudra que pour chacun d'entre nous, Pâques soit vraiment un jour où nous serons un peu plus libérés de tout ce qui nous empêche d'être heureux avec Dieu et avec nos frères. Amen.